Radio Kapi.
Rencontre ce jeudi à Kinshasa entre le président de la CENI et les responsables de la mission d'observation électorale CENCO-SCC. C'est dans le cadre de l'accompagnement de la CENI par cette mission pour un bon atterrissage du processus électoral. Selon Mgr Donatien Cholet, on tend vers la solution de la crise sur le fichier électoral avec l'attitude de la CENI de corriger les erreurs. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi condamne les atrocités commises sur des paisibles citoyens dans plusieurs coins de l'espace Grand Katanga. Pour Mgr Fulgence Muteba, il est inadmissible que la vie humaine soit banalisée de la sorte. Il est plus que temps que tout le monde revienne à la raison et que la paix règne partout. L'infirmier superviseur chargé des activités de prévention et de surveillance épidémiologique de la zone de santé de Oicha est notre invité. Archip Kusa s'entretient avec Marc Marofimbo sur le fait que depuis 2 mois, aucun cas de rougeole n'a été ni enregistré ni notifié dans le territoire de Beni après 2 ans d'épidémie. Bonsoir à tous. Nous tendons vers la solution de la crise sur les fichiers électoraux avec cette attitude de la CENI de corriger les erreurs. Déclaration de Mgr Donatien Cholet après la rencontre entre la mission d'observation électorale CENCO-SCC et les responsables de la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi à Kinshasa. Selon le prélat catholique, ce tête-à-tête avec Denis Kadima rentre dans le cadre de l'accompagnement de la mission d'observation électorale CENCO-SCC de la CENI pour un bon atterrissage du processus électoral. Il ajoute que les deux organisations ont convenu de renforcer leur collaboration. On écoute Mgr Donatien Cholet dans ses propos recueillis par Grâce Amzati.
Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté de la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, a été reconnu, identifié par la CENI avant même qu'on communique ensemble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Je crois que le plus important, c'est cette dynamique. Parce que là, on tend vers la solution de la crise de l'audit du fichier électoral. Si la CENI, pour la publication définitive, place la cartographie dans le site de la CENI sous un format téléchargeable et que nous vérifions, nous voyons que tous ces correctifs ont été faits, nous serons les premiers à dire clos les dossiers d'autres sur le fichier électoral.
Et puis en Ituri, un homme politique et son équipe sont tombés mardi dans une embuscade des miliciens de la CODECO à Lida, dans le territoire de Djougou. Selon certains candidats au scrutin de décembre prochain, la présence des groupes armés empêche leur libre circulation dans les territoires de Djougou et Irumu à 3 jours du lancement de la campagne électorale. Ils demandent au gouvernement de garantir la sécurité dans ces entités en vue d'offrir à tous les acteurs politiques les mêmes chances de réussite aux élections générales. Isaac Remoyope.
Plusieurs localités dans les territoires de Djougou et Irumu sont occupées par les groupes armés qui circulent avec leurs armes, ce qui, selon certains candidats, constitue un blocage pour la libre circulation des personnes. Le mardi dernier, une délégation du parti politique Alliance des Congolais acquis au changement ACAC, qui s'est rendue à Boulé, sa base électorale, est tombée dans une embuscade des miliciens de la CODECO à Lida, dans les territoires de Djougou. Ces derniers les ont dépouillés de l'argent et des téléphones après les avoir menacés de mort. Son secrétaire exécutif provincial demande au gouvernement de contraindre les groupes armés à déposer les armes pour le bon déroulement du processus électoral dans cette province. Janine Makoussi.
En tant qu'une maman candidate, comment est-ce que dans ce pays, dans ce territoire, on ne peut pas circuler? Impossible. On ne peut pas accepter de tels sales besoins. Jusqu'à où on va partir avec tout cela? Jusqu'à ôter même la vie de ceux-là qui partent au champ. Nous, on a vécu cela aujourd'hui et nous voulons que cela cesse.
Des sources militaires indiquent que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée grâce aux efforts de l'armée, dont l'effectif sera renforcé en Ituri. C'est l'envie de mettre hors d'état de nuire les groupes armés réfractaires au processus de paix. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Notez par ailleurs que la CENI a produit pour la première fois le glossaire de la langue des signes pour rendre accessibles tous les concepts électoraux aux personnes vivant avec handicap, principalement aux personnes qui communiquent avec des signes. Explication de la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Irène Essambo l'a dit hier au cours d'une conférence de presse conjointe avec son collègue de médias et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Irène Essambo est au micro de Paul Matendo.
Pour la toute première fois, la CENI a produit les glossaires de la langue des signes. Au même moment que nous, on était en train de travailler sur le dictionnaire de la langue des signes, la CENI était en train de travailler sur ces glossaires-là qui permettent d'identifier tous les concepts par rapport aux élections et comment les expliquer aux personnes qui ne communiquent pas de la même manière que nous. Et la CENI travaille également avec les personnes aveugles par rapport à la loi électorale pour traduire la loi électorale en écriture braille. Tout ça, c'est pour rendre accessible toutes les informations liées au processus électoral à ces catégories qui ont des problèmes spécifiques de communication. Et pour ce qui est des personnes handicapées physiques, quand vous allez au bureau de la CENI, vous allez voir vers le boulevard, ils ont même fait la rampe. Aujourd'hui, une personne avec handicap qui a des revendications peut facilement aller à la CENI avec sa chaise roulante, rencontrer les personnels.
Le secrétariat exécutif provincial de la CENI Congo Central a, lui, organisé hier un cadre de concertation à l'intention de toutes les parties prenantes au processus électoral. Selon Bernardine Kitondobodi, secrétaire exécutif provincial de la CENI Congo Central, cette rencontre vise la sensibilisation pour la participation massive au scrutin et à l'utilisation du dispositif électronique de vote. Le point avec Nana Plurich Mambo.
Les élections à tous les niveaux auront bel et bien lieu ce 20 décembre. Confirmation de Bernardine Kitondobodi, secrétaire exécutif provincial de la centrale électorale du Congo central au cours de ces cadres de concertation pour ainsi réveiller celles parmi les parties prenantes qui doutent encore de la tenue de ces scrutins. C'était aussi une occasion pour la CENI Congo central de sensibiliser les parties prenantes sur les avantages et la fiabilité qu'offrent les dispositifs électroniques de vote par rapport à la machine à voter qui avait une mauvaise connotation. Quant à l'objectif de ces assises ayant regroupé près de 200 personnes parmi lesquelles les acteurs politiques, les représentants des regroupements et partis politiques, des observateurs nationaux et internationaux, les CESAC, la presse ainsi que la société civile, Bernardine Kitondo précise.
L'objectif est de sensibiliser les parties prenantes au processus et puis les informer à quelle étape est-ce que nous sommes arrivés et surtout de les appeler d'aller sensibiliser surtout les regroupements, partis politiques, la société civile, leur base, pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir une forte participation.
Ces cadres de concertation a été sanctionné par l'exercice de simulation du nouveau dispositif électronique de vote, DEV en sigle. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Du côté de la CENI Sud-Kivu, on signale qu'elle continue de bénéficier de l'accompagnement de la MONUSCO dans les efforts d'aboutir aux élections libres, crédibles, apaisées et transparentes à partir du 20 décembre prochain. Une campagne de sensibilisation électorale s'est tenue hier à Walungu Centre où toutes les parties prenantes ont échangé paisiblement sur leur rôle afin d'organiser des scrutins non émaillés de violences liées aux élections. Suivez ce reportage de Jean Kassami.
Toutes les forces vives du territoire de Walungu étaient conviées à cette campagne de sensibilisation électorale au Sud Kivu. L'administrateur de territoire, Inonsa Karazo, trouve nécessaire la tenue d'une telle rencontre. Il s'est dit disposé à vulgariser les enseignements reçus dans tous les coins et recoins de son entité pour que les élections apaisées aient lieu dans tous les territoires de Walungu.
Nous allons faire une restitution de tout ce que nous venons de recevoir par les experts de la CENI et de la MONUSCO.
Les participants venus des différents services étatiques et de diverses organisations de la société civile ont accordé une attention particulière aux échanges. Gomora Espérance reste dubitative. Pour elle, comment est-il possible d'éviter les violences électorales dans un millier où plusieurs électeurs abondent encore devant les bureaux de la CENI pour obtenir les duplicata de leurs cartes dont les écrits et les photos ne sont pas lisibles?
Il y a ceux-là qui ont l'envie de voter les leurs, mais sinon pas l'accès Vous voyez que ça peut créer même un soulèvement populaire.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Terminons cette page sur le processus électoral par le Maniema. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'appui à la prévention des violences électorales pour la cohésion sociale dans la ville de Kindu, les territoires de Punya, Kailo, Kibombo et les chefferies de Benya, Samba et Basonge 1 du territoire de Kasongo, la Caritas Développement Kindu a sensibilisé hier les hommes et les femmes des médias sur les élections apaisées. Selon les organisateurs, cette sensibilisation vise un climat de paix et la cohésion sociale durant le processus électoral. C'est un compte rendu de Florence Kizalunga.
Ils étaient au total 30 journalistes à être sensibilisés sur le rôle de médias dans la prévention des violences avant, pendant et après les élections et les médias face à la non-violence dans le processus électoral au Maniema. Abbé Christian Kungwa, représentant du directeur de la Caritas Développement Kindu, donne l'objectif.
Nous référons aux trois cycles électoraux qui sont déjà passés. Réellement, il n'y avait pas de cohésion sociale. Il n'y avait pas de paix. Et raison pour laquelle nous avons invité les journalistes pour qu'ils jouent bien leur rôle. Nous ne voulons plus que les choses que nous avons vécues les années passées puissent se reprendre. La balle est encore entre nos mains. Si nous jouons mal notre carte, c'est que les 5 années qui viennent seront les années chaotiques. Les journalistes doivent travailler sans peur.
Les journalistes ont eu des mots justes pour remercier les organisateurs. Gentil Muyombo est de la Radio Mali.
Après les enseignements récits, nous promettons de nous conformer comme il faut et suivre à la loupe les orientations que Caritas nous a communiquées de la science du travail. Donc c'est de travailler dans le strict respect des codes éthiques déontologiques et aussi des lois régissant la carrière de la presse dans la République démocratique du Congo. En tout cas, de mon avis, j'ai salué la tenue de ces assises qui étaient vraiment opportunes et qui tombent à point nommé.
C'est avec l'appui du PNID que s'est organisée cette rencontre. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous en parlions dans le sommaire. Les atrocités commises sur des paisibles citoyens dans plusieurs coins de l'espace Grand Katanga mobilisent les énergies pour que pareille situation cesse. Pour l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, le vivre ensemble et la paix doivent caractériser tout le monde. Pour Fulgence Muteba, il est inadmissible que la vie humaine soit banalisée de la sorte. Il est plus que temps que tout le monde revienne à la raison et que la paix règne partout. Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, est au micro de Jean Gandou.
Je suis horrifié par la montée de la violence et ses conséquences fâcheuses au sein de la population congolaise du Katanga. Aussi, je condamne avec la dernière énergie toute incitation à la violence aveugle, à la haine tribale, tout discours de division et de mépris des autres, ainsi que toute provocation à base ethnique. J'appelle toute notre population congolaise du Katanga à cultiver et à préserver la paix et à se mettre résolument à l'école du vivre ensemble.
Sur le terrain, la cité de Malembankoulou dans le Haut-Lomami retrouve sa quiétude après des journées de tensions qui ont occasionné mort d'hommes. Au regard de l'ampleur de la situation qui a prévalu sur le terrain, les appels sont lancés à toute la population locale à privilégier la paix et la cohabitation pacifique. La société civile, les ONG de défense des droits de l'homme s'activent pour que la paix revienne et que les auteurs de ces actes ne restent pas impunis afin que pareille situation ne se reproduise. Jean Gandou.
Les appels au calme dans le territoire de Malembankoulou se multiplie. C'est le cas du président des ressortissants de Malembankoulou, Jethro Muyombi, qui appelle les uns et les autres à privilégier la paix.
Je voudrais appeler toutes les parties au calme, à la paix. Nous avons besoin de vivre ensemble. J'ai fait des messages à autant des notables et même aux chefs coutumiers sur place. J'ai parlé avec certaines personnes pour leur demander de calmer tout le monde à Malembankoulou et d'utiliser des voies de droit pour revendiquer.
Toujours au sujet de la situation qui a prévalu à Malembankoulou, deux ONG de défense des droits de l'homme de Lubumbashi, à savoir Humanisme et Droits Humains et Action contre l'impunité des droits de l'homme, sont allés à la rencontre du commandant de la 2e zone de défense, Hubert Tshuaka de ACIDH.
Oh, nous sommes très surpris de savoir que les FRDC avaient déjà pris des précautions. Déjà dès le premier jour, quand les images ont commencé à circuler, ils ont instruit les militaires qui étaient sur place de renforcer la police qui était débordée. Ils ont calmé la situation et il y a même d'autres unités qui sont arrivées sur place.
De son côté, la Fondation Katangaise, qui regroupe toutes les associations socioculturelles du Grand Katanga, à travers son président Raphaël Moututa, appelle les uns et les autres à revenir à la raison. Il préconise aussi le dialogue et le respect mutuel pour le vivre ensemble. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, une accalmie règne ce jeudi pour le 4e jour consécutif sur les lignes de front. opposant le M23 aux forces armées de la RDC et aux groupes armés locaux. C'est notamment dans les territoires de Masisi, Rutshuru et au nord de Nyiragongo. Des sources locales expriment cependant des inquiétudes sur la situation humanitaire dégradante, en particulier dans la chefferie de Bwito. Plusieurs villages des groupements Bambo et Mutanda se sont vidés de leur population les deux dernières semaines. Bernard Nyangi.
Ces sources parlent d'au moins 150 000 familles qui ont fui la zone de Bambo, Kishishe, Kibirizi et autres villages environnants pour s'exiler vers le groupement et commune rurale de Kanyabayonga. Le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambo en déplacement à Goma précise que les villages de Bambo et Kishishe, par exemple, sont complètement vidés de leurs habitants depuis le 26 octobre dernier. Monsieur Isaac Kibira plaide pour une assistance humanitaire d'urgence en faveur de cette population déplacée qui se concentre en majorité à Lusoa, dans le groupement de Kanyabayonga, au nord de la chefferie de Bwito. Selon plusieurs sources locales, après la réoccupation de Bambo et Kishishe, à l'issue des violents combats le week-end dernier contre l'armée congolaise et les groupes armés locaux, les rebelles du M23 poursuivent les opérations de ratissage. C'est notamment dans la zone appelée Mozambique, en plein parc de Virunga, qui serait un important bastion des rebelles FDLR. Nos sources estiment que si la calme règne dans la zone, la situation sécuritaire y reste instable et volatile. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
L'invité.
Cela fait 2 mois que la zone de santé de Oicha dans le territoire de Beni n'a enregistré ni notifié aucun cas de rougeole. Cette épidémie a sévi pendant 2 ans dans cette zone de santé. Comment expliquer cette situation et quelles sont les mesures prises afin de barrer la route à cette épidémie dans une zone par ailleurs reconnue pour son insécurité récurrente? Nous en parlons avec l'infirmier superviseur chargé des activités de prévention et de surveillance épidémiologique, Archip Kiusa, s'entretient avec Marc Marofimbo.
Archip Kiusa, bonjour.
Oui, bonjour.
La zone de santé d'Oicha a été secouée par la rougeole des environs avec plus de 2000 cas et des dizaines de décès. Quelle est la situation actuelle de cette épidémie après la série des campagnes de vaccination dans cette zone de santé?
Vous allez savoir que notre zone de santé, depuis 2022 et à 37e semaine, nous avons été dans l'épidémie de rougeole. C'est-à-dire à partir de 37e semaine de l'année 2022 jusqu'à décembre, nous avions notifié 452 cas de rougeole avec 5 cas de décès. Et ceci, c'était dans 15 aires de santé sur les 27 qui composent la zone. Nous avions vacciné, hormis Kainama et les autres structures à cause de l'inaccessibilité dans ces lieux. Il y a une grande campagne qui est venue s'ajouter, ça c'était en main. Quand nous parlons de grande campagne, c'est-à-dire organisée maintenant par notre gouvernement, la RDC. Et là, nous avons vacciné dans toutes les aires de santé, bien sûr, avec Kainama, que nous, on pensait qu'on ne devrait pas atteindre Kainama. Pour dire que, de janvier 2023 à septembre 2023, nous avions notifié 2357 cas, malheureusement, avec 13 cas de décès. Pour vous dire, si on ajoutait les 4 salaires pour l'année 2022, avec ce chiffre que je viens de vous donner, c'est-à-dire la zone a enregistré pendant la durée de l'épidémie qui s'évoche dans les deux années, 2022 à 2023, 2809 cas, malheureusement, avec 18 cas de décès. Maintenant, la particularité, c'est quoi? Les 80% de ces décès proviennent des enfants, des déplacés qui étaient dans des sites qui vivent une vie misérable puisque ça trouvait les enfants sur le terrain de malnutrition. Là, ces enfants-là ne pouvaient pas résister. Mais Dieu merci, à partir du mois de fin septembre, octobre, jusqu'à nos jours, nous sommes en train de surveiller cette maladie, aucun nouveau cas jusque-là.
Alors, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face lors de cette campagne de vaccination?
D'abord, comme je venais de vous le dire, la notification c'était à 2022, 37e semaine. Depuis lors, on n'avait pas le vaccin. Alors, la riposte est venue un peu tardivement. On n'avait pas les moyens pour riposter, puisqu'il fallait avoir le matériel d'inoculation, c'est-à-dire les vaccins, les seringues. Et à part ça, il faut aussi le personnel qui est bien formé pour faire cette activité. Il y a aussi entre c'est par rapport à ce mouvement de la population suite à la sécurité. Et ceci dit en fait, en ce que quand les gens sont intensés, alors ça plus favoriser cette épidémie. Et aussi, il faut savoir que l'épidémie a commencé d'ailleurs dans les sites de déplacés. Et c'était prévisible par rapport à ça.
Il faut prévenir que guérir, dit-on, oui, avec tout ce que la zone de santé d'Oïcha a vécu comme épidémie des rougeoles, quelles sont les mesures préventives que vous avez prises?
Alors, les mesures sont nombreuses. D'abord, signaler les cas bien avant. Ça concerne dans la communauté, c'est-à-dire notre population. Quand il y a un cas suspect, ils doivent le dénoncer dans un centre de santé proche. Et les centres de santé, à notre tour, doivent aussi nous alerter et nous devons prélever et envoyer l'échantillon pour confirmer la maladie. Nous devons réactiver les séances de vaccination dans les aires de santé. Nous devons sensibiliser les parents à faire vacciner les enfants et respecter vraiment les calendriers vaccinales. Au niveau maintenant de hiérarchie, c'est nous rendre disponibles les vaccins à permanence, qu'il n'y ait pas de rupture en vaccin. Et à part ça, nous remercions d'abord notre gouvernement puisqu'il nous a doté aussi des frigos solaires. On n'en avait pas beaucoup. On avait dans la zone 4 sur les 27, mais on nous a ajouté 10, ce qui est avantageux. Et vous savez, maintenant, on a reproché les vaccins auprès de la population. Et là, on est à l'aise pour vacciner, même si on n'a pas encore installé le frigo de Kainama, mais le frigo est déjà à Kainama. Suite à la sécurité, un moment venu, on doit toujours installé à tout prix ces frigos.
Archip Kiusa, nous vous disons merci.
Merci.